toutes deux phrases de saint Thomas. Ici, ce n'est pas n'importe quel individu, donc, ce n'est pas n'importe quel individu dans le genre substance, même dans la nature rationnelle, qui a la raison de personne, mais seulement ce qui existe par soi. C'est ce qui existe par soi. Saint Thomas dit ça en vous voyez, comme quoi, vous sortez une phrase du contexte. Alors, sortant une phrase du contexte, ça n'a plus de sens. C'est très significatif. C'est dans la tertia, hein, ce texte. Il n'y a pas de référence, mais je suis persuadé que c'est dans la tertia. Et saint Thomas dit ça par rapport à la nature humaine du Christ. Donc c'est une nature rationnelle, qui n'est pas une personne. Elle n'existe pas par soi. Oui, on pourrait faire dire à saint Thomas des choses énormes. Alors, d'une façon générale, il faut toujours faire attention à ça. Quand vous citez quelqu'un, prenez le contexte. Saint Thomas est dans un contexte de recherche théologique par rapport au mystère de l'incarnation. Alors, par rapport au mystère de l'incarnation, il essaie de comprendre comment il peut y avoir unité de personne et deux natures. Or, les deux natures sont rationnelles. L'une est spirituelle, l'autre est nature humaine. Non, je relis, vous voyez, ce n'est pas n'importe quel individu dans le genre substance, même dans la nature rationnelle, qui a la raison de personne, mais seulement ce qui existe par soi. Or, la nature humaine dans le Christ n'existe pas par soi. Donc, la nature humaine dans le Christ, qui est une nature rationnelle, n'est pas une personne. C'est tout simplement ça qu'il veut dire. Alors évidemment, c'est intéressant, parce qu'alors, ça oblige de préciser la définition de personne. Et quand vous dites une substance dans une nature rationnelle, c'est pas suffisant, qui existe par soi, donc qui subsiste. Normalement, toutes les substances dans une nature rationnelle subsistent, donc existent par soi. Il y a un cas unique qui est le mystère du Christ. Et ce mystère du Christ ne peut pas être généralisé, parce que c'est un mystère qui est donné uniquement par la foi. Je ne peux pas donc me servir de ce cas unique pour définir ce qu'est la personne. Mais ça m'oblige de préciser, en effet, que la personne, c'est ce qui existe par soi. Deuxièmement, alors l'autre texte, si notre saisie de la personne porte sur une réalité complexe, comment peut-on dire que la ratio de personne n'implique pas de composition? Donc, si notre saisie de la personne porte sur une réalité complexe, comment peut-on dire que la ratio personnelle n'implique pas de composition? La ratio personnelle est quelque chose d'indivisible, puisque ça existe par soi. Donc c'est quelque chose d'indivisible. Mais les éléments qui constituent la personne sont nombreux. Oui. Et ça existe constamment, ces choses-là. L'homme humain, notre vie humaine est une vie. La vie humaine est une vie. Et avec même l'ordre surnaturel, il n'y a qu'une seule vie. Je n'ai pas trois vies, changement de vitesse, n'est-ce pas, et trois vies différentes. J'ai une vie. Alors, cette vie, qui est la mienne, présuppose une très grande complexité. C'est sûr. L'homme et la personne humaine, c'est ce qui est le plus complexe. Et cependant, c'est ce qui est le plus simple. Alors, c'est toujours la même chose, c'est de saisir la complexité qui se tient du côté matériel et l'unité qui se tient du côté formel. L'âme est absolument indivisible. Je prends encore un autre exemple. L'âme est absolument indivisible. Or, mon âme avec mon corps implique une divisibilité. Si vous coupez votre petit doigt, est-ce que vous coupez votre âme? Est-ce que votre âme est au bout de votre petit doigt? Oui. Est-ce que votre petit doigt est un petit doigt humain? C'est pas animal. Pas celui du singe. Parce qu'il est humain, donc l'âme est présente. Et quand je touche, c'est mon âme qui touche à travers mon corps. Donc l'âme s'étend à travers tout le corps, elle a une espèce d'extension, et cependant elle est indivisible. Principe d'indivisibilité, l'âme est principe, c'est un principe. Donc elle a une indivisibilité. Mais la manière dont elle se réalise, son pose, implique une complexité. Alors vous voyez, c'est toujours au fond la même distinction que nous devons faire entre le TST et le pose. Alors j'explique pour que tout le monde puisse comprendre. Le TST, c'est l'interrogation, qu'est-ce que c'est ? Alors on cherche le principe, qu'est-ce que c'est le TST ? Et le pose, c'est le comment. Mon âme en elle-même est indivisible. La manière dont mon âme existe, elle existe dans une composition, dans une complexité. Donc mon âme est indivisible, mais elle existe dans une composition, une complexité. C'est le pose. Oui, dites.
Peut-être la question porte-t-elle sur la composition par rapport à l'imperfection, parce que la cellule là,
Oui. On peut attribuer la personne à Dieu parce que la personne n'implique aucune imperfection. Ça, c'est sûr. Mais ce que j'attribue à Dieu, c'est pas le pose. C'est le TST de la personne. Et le TST, c'est la ratio personnelle. Alors, c'est absolument indivisible. Si la ratio personnelle n'impliquait pas quelque chose d'indivisible, alors c'est là où le problème est très délicat. Hein, si on peut bien voir. Hein. Le problème est très délicat. On va tout de suite le soulever. Ça a été la recherche d'un étudiant, notre frère Henri, qui a essayé de voir ça quand on a parlé de son travail pour la licence. Il y avait la ratio personnelle. Alors, y a-t-il une ratio personnelle ? J'ai dit que la personne, prise concrètement, est un commun. Y a-t-il une ratio du comment ? Oui. Parce que quand je prends la ratio personnelle comme ça, la ratio personnelle, ça a l'air d'être un principe. Est-ce que la ratio personnelle est un principe ? Ou est-ce que la ratio personnelle n'est pas un principe ? Est-ce que c'est un principe propre ? Si c'est un principe propre, vous voyez, il y aura à partir de la découverte de la personne une nouvelle partie de l'énergie. Qui sera le problème de la personne humaine. Et la métaphysique aura une nouvelle partie. La philosophie première aura une nouvelle partie qui sera justement ce point de vue du principe. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre. C'est quand il dit ratio, ça ne veut pas dire principe. Tout principe implique une ratio, mais toute ratio n'implique pas nécessairement un principe. Puisque la ratio, c'est quoi ? La ratio, c'est la saisie, c'est la signification profonde de la réalité telle qu'elle est saisie, concrètement. Et la personne concrète, c'est comme blanc. La ratio personnelle, c'est ce par quoi la personne est personne. C'est comme blancheur. Alors vous avez une ratio de blanc, comme vous avez une ratio de personne. Et c'est pas un principe. Toute connaissance, qu'il s'agisse d'un principe ou qu'il s'agisse d'un comme, peut impliquer une ratio, une appréhension. Parce que la ratio, c'est au niveau de l'appréhension. Tandis que le point de vue du comment, c'est l'opposé, c'est l'opposé de l'autre. Alors c'est ça, je crois qu'il faut essayer de comprendre, ce qui n'est pas toujours commun de bien comprendre, c'est que le principe et le comment se distinguent. C'est deux choses distinctes. Un principe ne peut pas être un comment. Mais le comment ne peut pas être un principe. Le comment d'une réalisation d'un principe. Comment se trouve réalisé, qu'à prendre l'exemple, comment se trouve réalisée notre âme spirituelle ? Notre âme spirituelle se trouve réalisée dans notre corps. Notre âme spirituelle ne se réalise jamais indépendamment du corps. Donc se trouve toujours réalisée à partir du corps. Alors, voyez bien, le principe, c'est de saisir l'âme spirituelle, le comment, c'est de dire comment je trouverai bien avec le corps. Et quand je regarde l'âme spirituelle sous le point de vue du comment, elle applique le corps. Comment se trouverait-elle réalisée? Elle se trouve réalisée dans le corps. Je n'ai jamais vu une âme spirituelle humaine séparée. Elle peut exister séparée, mais je n'ai aucune expérience. La seule expérience que j'ai de l'âme spirituelle, c'est dans le corps, à travers le corps. Et ça, c'est son comment. Et je peux me poser la question de savoir quelle est la ratio de ce comment. Comme je me pose la ratio du principe, je peux me poser la ratio du comment. Vous voyez? Et je crois que c'est ça qu'il faut saisir. Ordinairement, ratio, tout de suite, on pense au principe. Alors que la ratio n'est pas au niveau du principe. La ratio est au niveau de l'appréhension, et le principe est au niveau du jugement. Et le comment est au niveau du jugement. Mais la ratio est commune aux deux, puisqu'il y a une appréhension au niveau du principe et au niveau du comment. Il y a une ratio commune. Ça, c'est très important de comprendre ça. Vous voyez? Vous voyez ça mieux? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça?
Oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir une ratio qui implique composition?
Non. La ratio, c'est sur un principe, ce par quoi? Ce par quoi? Blancheur. C'est la ratio du blanc. Ce par quoi le blanc est blanc. Oui. Alors, la ratio est quantitative. Est-ce que la raison de quantité a dit une composition? C'est intéressant. Oui, c'est le seul cas. Est-ce que la ratio de quantité, oui, quand vous prenez la quantité qui se trouve réalisée dans le monde. Bon, la quantité qui se trouve réalisée dans le monde implique toujours la divisibilité. Bon, est-ce que la ratio de la quantité, qui est la divisibilité, vous voyez, implique-t-elle une composition? Non. Puisque c'est la fameuse phrase que toujours dit Saint-Thomas, et si je m'appuie sur Saint-Thomas, quand il dit que tout ce que l'appréhension saisit, elle le saisit per modum quiditatis, c'est donc per modum unitatis. Tout ce que l'appréhension saisit, elle le saisit toujours per modum quiditatis, par mode de quiditatis. Donc elle le saisit toujours par mode d'individualité. C'est pour ça qu'on dira l'appréhension simplex. Ça saisit toujours quelque chose de simple. Oui. Nous allons terminer ce petit passage sur saint Thomas. Nous avions vu comment saint Thomas, dans sa théologie par rapport au Christ, prenait le point de vue du tout, comment saint Thomas, dans sa théologie morale, alors ça c'est très important, nous l'avons déjà vu, le point de vue de la théologie morale de saint Thomas repose sur l'imago Dei. Et le point de vue de l'imago Dei fond le point de vue de la personne. Mais au point de vue moral, saint Thomas prend toujours le point de vue du demi-monde. C'est que, et alors vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est que la définition de la personne au niveau moral n'est pas du tout la même qu'au niveau proprement métaphysique. Alors ça serait très intéressant pour rejoindre toute la perspective théologique. On verra, quand on verra la perspective de Marc Scheller et puis la succession de Marc Scheller. Alors on verra à ce moment-là comment le point de vue de la personne n'est pas vu au niveau métaphysique, mais vu au niveau du dominium. Au point de vue éthique, qu'est-ce que c'est qu'une personne capable de responsabilité? Et quand vous voyez quelqu'un qui est incapable de responsabilité, vous direz, ben, je ne peux pas monter dessus, c'est vraiment pas une personne. C'est un individu, oui, oui, mais c'est pas une personne. Et alors au fond, en réalité, à ce moment-là, le mot personne prendra un sens tout à fait différent. Ou bien alors, vous définirez par le point de vue de la conscience. Saint Thomas ne le fait pas par la conscience, ça se fait après. Revenons sur ce qui était évoqué tout à l'heure à propos du mystère du Christ, la personne humaine est constituée de l'union de l'âme et du corps. Quand saint Thomas établit le lien essentiel de l'âme humaine et du corps, il montre que l'âme spirituelle, considérée en elle-même, n'est pas la personne. Ceci, c'est aussi intéressant. Ça, c'est le théologien qui fait ça. Hein. Vous voyez bien. Pour eux, c'est pas un tout. L'âme n'est pas le tout. La personne humaine, c'est le tout concret. Je viens du côté du pose. L'anima est un principe. Et ça, c'est un des arguments les plus forts pour montrer que pour saint Thomas, la personne humaine n'est pas un principe. Parce que l'âme humaine comme telle, saint Thomas nous dit, l'âme humaine comme telle fait partie de l'homme. Il y a l'âme et le corps. Et l'âme informe le corps. Alors, l'âme humaine, c'est le principe spirituel qui informe. Et l'âme humaine n'est pas la personne. Donc, bien qu'elle soit principe, elle n'est pas personne. Quand saint Thomas étudie le lien essentiel de l'âme humaine et du corps, il montre que l'âme spirituelle, considérant elle-même, n'est pas la personne. La personne, c'est l'âme unie au corps. Il nous dit ceci dans le troisième livre des Sentences, distinction 5, question 3, article 2. Si l'homme est une personne, il ne le tient pas seulement de son âme, mais de son âme et de son corps. Il subsiste à partir des deux, cum ex utriusque subsistat. Et de même, dans le De Potentia, qui est beaucoup plus tardif, hein, question 9, article 2, à la 14e réponse, l'âme séparée est une partie de la nature rationnelle humaine, et non toute la nature rationnelle humaine. C'est pourquoi elle n'est pas une personne. Alors, c'est très intéressant pour bien comprendre que la personne, c'est le tout qui existe, qui subsiste. La personne, c'est l'âme unie au corps. Si l'âme spirituelle, d'une certaine manière, subsiste en elle-même, si elle a bien un essai subsistance, ça c'est des questions très très délicates et très intéressantes à voir. Pour saint Thomas, l'âme humaine a un essai subsistance. Et il nous dit ceci dans le traité sur De Spiritualibus Creatoris, article 2, à la 8e réponse, l'âme humaine qui est la plus élevée de toutes les formes, altissima omnium formarum, la plus parfaite et la fin de toutes les formes naturelles, a un essai subsistant. Elle a un essai subsistant, mais elle n'est pas une personne. Vous voyez, ça précise encore. Hein. C'est intéressant à préciser, ce qui montre bien, c'est pas si connaître que ça, bien voir. Hein. Cependant, le corps est essentiellement attiré vers cet essai, et c'est le composé qui est une personne. Le corps est attiré vers l'essai de l'âme. C'est pas l'âme qui est attirée par le corps. C'est le corps qui est attiré par l'âme. Ça, c'est un regard théologien. C'est très intéressant. Saint Thomas reconnaît qu'il y a là une mirabilis connexio, celle de l'esprit et la matière, qui est le mystère propre de l'homme. Donc, il y a une connexion admirable. Il nous dit ceci, donc, l'union de l'âme et du corps se fait non par l'appétit de l'âme, mais plutôt par l'appétit du corps. Ah, oh, je n'ai jamais pensé ça. Que votre corps a un appétit vers l'âme, un appétit naturel. Oui, comme il dit, la matière a un appétit vers la forme. Aristote dit ça dans la physique. La matière a un appétit vers la forme. Alors, donc le corps qui est du côté de la matière a un appétit vers l'âme. C'est très très curieux ces textes-là. Et c'est très intéressant parce que ça donne une vision théologique de l'âme et du corps assez différente de la vision proprement philosophique. Dans une vision de sagesse. Dans une vision de sagesse, je peux dire que le corps humain, il est attiré vers l'âme. Alors, de temps en temps, c'est l'inverse qui se passe. Quand l'âme n'a plus assez de force, quand l'âme spirituelle s'éteint, alors c'est le corps qui l'emporte. Mais normalement, il y a un appétit naturel. Un appétit naturel du corps vers l'âme. Et le corps, alors, subsiste dans l'âme. Vision du théologien. Elle est vraie, hein, c'est la vision du théologien comme d'un côté. Pour comprendre cette cette mirabilis connexio, cette connexion extraordinaire de l'esprit, de l'âme spirituelle et de la matière. Si Dieu fait cette connexion admirable de l'esprit et de la matière, ce n'est pas du tout pour que l'esprit disparaisse dans la matière, mais pour que la matière soit en nous. C'est un ordre de sagesse. Et donc c'est pour que la sagesse soit en oubli. C'est pour que le corps soit en oubli. Que le corps soit attiré vers le point de vue de l'âme. Ça c'est très important, je crois. C'est une vision donc théologique. Hein. Ça fait comprendre le point de vue des corps glorieux. Si on pousse jusqu'au bout. Dans cette connexion admirable qui réalise une unité substantielle, l'esprit demeure esprit, et le corps est transformé, car précisément, ce n'est pas en tant que possédant une puissance intellective que l'âme-substance est unie au corps, mais en tant que possédant une puissance intellective, elle est une âme spirituelle communiquant son esprit au corps. Alors ça, c'est aussi très, très intéressant et difficile à comprendre, hein. Vous comprenez que l'âme spirituelle ne communique pas au corps la détermination de la forme spirituelle. Le corps reste au corps. Il reste la matière. Mais c'est l'excès. C'est là où on voit très bien que Saint Thomas a pris conscience de plus en plus de la distinction entre le point de vue de l'âme et l'excès. Donc, le point de vue de la forme et l'excès. La forme détermine, l'excès actue. Et c'est pour ça que, de fait, l'âme spirituelle peut actuer le corps, sans mélange de détermination du corps et de l'âme. Et l'âme garde son point de vue spirituel. C'est très très important ça, vous voyez? Parce que Jean de Saint-Thomas va prendre beaucoup cela pour essayer de comprendre l'unique essai dans le Christ. En montrant que c'est l'essai du Verbe qui attire la nature humaine. Arrêtez la réalité. C'est pas une détermination, c'est le point de vue de l'acte. Et ça, je crois que c'est très juste. C'est intéressant que ça donne un vie. C'est l'acte. L'acte termine. L'acte actue. L'acte n'informe pas. Donc l'acte ne change pas la nature d'une chose, mais elle met cette réalité dans un état différent. Le corps est dans un état différent parce qu'il est actué par le point de vue de l'âme, par l'âme spirituelle. Alors il est dans un état particulier. Et ceci est possible si je comprends que l'essai, justement, est l'acte. Donc, dans cette connexion admirable qui réalise une unité substantielle, l'esprit demeure esprit et le corps est transformé. Transformé, il garde sa même nature, hein, mais il est transformé dans sa manière d'exister. Car précisément, ce n'est pas en tant que possédant une puissance intellectuelle que l'âme substance est une au corps, mais en tant que possédant une puissance intellective, elle est une âme spirituelle communiquant son essai au corps. C'est une union dans l'être, dans l'essai, et non dans le devenir. C'est aussi très important. C'est une union dans l'être. On comprend par là cette expression que saint Thomas reprend à la tradition néoplatonicienne, l'âme même est comme un certain horizon et une frontière des êtres corporels et incorporels. C'est dans le De Causis. Hein. Je reprends cette expression de saint Thomas qui est très belle, qui n'est pas commode à comprendre, parce que c'est, quand on parle d'horizon, c'est plus très bien ce que ça veut dire. Hein. Mais ça fait rien. On peut le dire. Saint Thomas reprend la tradition néoplatonicienne, l'âme humaine est comme un certain horizon et une frontière des êtres corporels et incorporels. Quasi quedam horizon, confinium, corporeum et incorporeum. Alors saint Thomas dira, l'horizon est circulus terminans visum. Alors vous avez la définition, vous voyez bien ce que c'est que l'horizon. c'est intéressant parce que c'est le terme, c'est bien qui était regardé dans la phénoménologie. Alors c'est intéressant de voir déjà ce terme qui montre bien que ce terme est néo-platonicien et que Saint Thomas l'emploie. Alors c'est intéressant de voir cette manière où Saint Thomas précise que c'est l'horizon est circulus terminus visum et est infinum, infinus terminus superioris hemisferi principium autem inferioris et similiter anima est ultima terminus eternitatis et principium tempus. Donc l'âme est à la fois le principe du temps et le terme de l'éternité, l'ultime terme de l'éternité. Il y a dans l'âme quelque chose d'éternel et il y a dans l'âme quelque chose qui est dans le temps. Alors c'est l'éternité dans le temps. C'est très curieux hein, comme vision. Et c'est là l'horizon. C'est ça que Saint-Thomas veut montrer que l'horizon. L'horizon, donc, c'est le circulus, c'est le cercle terminant, ce qui termine la vue. Et elle est le terme infime de l'hémisphère supérieur, principe de l'hémisphère inférieur. Ce qui fait l'horizon. C'est ça l'horizon. Ah, vous avez l'horizon au point de la mer, hein. L'horizon près des montagnes, ça va moins bien. Et l'horizon, certainement, on voit très bien l'horizon de la mer. Hein. Alors, l'horizon de la mer, c'est ça, c'est là l'image qui demeure. Qu'est-ce que c'est que l'horizon? L'horizon unit le ciel et la terre. Donc, il unit l'éternité. Pour les anciens, le ciel, c'est l'éternité, il ne faut pas l'oublier. Et puis la terre, le temps. Et donc, c'est ce qui permet d'unir les deux. C'est une image métaphorique. C'est métaphorique, c'est évident. Mais c'est intéressant de voir l'application de Saint Thomas à propos de l'âme. L'âme est l'horizon du monde incorporel et du monde corporel. On voit comment on peut facilement, en pensant être fidèle à la pensée de Saint Thomas, en venir affirmer que l'âme humaine est forme du corps et esprit. Qu'en tant que forme du corps, elle constitue une nature et est donc parfaitement déterminée et que comme esprit elle est imago Dei au-delà de la nature et donc en tant qu'au-delà de la nature indéfinissable qu'elle est capable Dei et ne peut être que transcendantale. C'est des expressions de certains, c'est périphré, c'est ça. Bon, je ne suis pas d'accord. Mais je montre comment certains, tout en voulant être fidèles à Saint-Thomas, peuvent arriver à dire ça, vous voyez. Parce que c'est vrai qu'il y a des termes comme Saint-Thomas qui ne sont pas très, très nets. On dira ainsi que l'homme comme personne, c'est-à-dire comme esprit, s'achève en Dieu. Car la personne n'a pour mesure réelle que Dieu. L'être n'étant qu'une mesure intentionnelle. Mais si l'on regarde en profondeur la pensée de saint Thomas, donc pas de façon superficielle, hein, simplement en essayant de regarder plus profondément, mais si l'on regarde en profondeur la pensée de saint Thomas, on ne peut nier qu'il y a une unité d'être entre l'âme et le corps qui constitue la nature et la personne. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas de dualité. Alors un monde inférieur et un monde supérieur. Cette unité d'être, grâce à l'âme spirituelle, est une unité irréductible à celle des autres réalités qui lui sont inférieures. C'est une unité qui, par l'intelligence et la volonté, demeure ouverte à la transcendance. Ça, c'est sûr. On va voir ça après, mais je le donne tout de suite ici pour bien montrer la déviation qui peut se faire. Vous comprenez, si on confond l'intentionnalité et l'être, on aboutit fatalement à ça. Alors c'est pour ça que c'est intéressant à noter, parce qu'on voit l'erreur énorme. On veut être thomiste, mais au fond, on donne une interprétation de Saint-Thomas qui n'est plus du tout celle de Saint-Thomas. C'est cette unité d'être, grâce à l'âme spirituelle, est une unité irréductible à celle des autres réalités qui lui sont inférieures. C'est une unité qui, par l'intelligence et la volonté, demeure ouverte à la transcendance. La personne humaine, dans sa nature, demande de se dépasser elle-même en découvrant la fin de son être et de son esprit. ainsi que la source de son être, de sa lumière et de son amour. En ce sens, on peut dire que la personne humaine n'a comme fin ultime réelle que Dieu. Mais elle ne peut découvrir cette fin qu'en passant par les diverses connaissances philosophiques et la connaissance métaphysique de l'être, connaissance comme naturelle à un esprit lié aux connaissances sensibles. Oui. On ne peut pas dire que la personne humaine s'achève tout de suite en Dieu. C'est ça que ça veut dire. On télescope un état dessus. On télescope un état dessus en disant ça, en disant la personne humaine, elle demande de s'achever en Dieu. Non. C'est très vrai de dire que la personne humaine, dans son demande, d'une façon ultime, de s'achever en Dieu. Mais pas immédiatement. C'est la différence entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. L'ordre surnaturel de la grâce s'achève immédiatement en Dieu, comme un être participé qui s'achève dans la cause de sa participation. Mais au point de vue naturel, on ne peut pas dire que l'esprit comme tel, l'esprit qui est dans l'âme, l'esprit demande de s'achever directement en Dieu. Pourquoi ? Parce que cet esprit s'exerce selon un mode intentionnel. On n'est pas substantiellement esprit. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas substantiellement esprit. On est esprit réellement dans notre capacité de connaître et d'aimer. Alors on dira l'âme spirituelle. Mais attention, quand je dis on n'est pas substantiellement esprit, l'esprit s'enracine dans la substance, mais il n'est pas une substance séparée. C'est très délicat, si je vous arrête, et c'est très important à essayer de le comprendre. Il y a donc chez saint Thomas une conception de la personne au niveau métaphysique. Sans doute saint Thomas, en tant que théologien, n'a-t-il jamais cherché à expliciter cette conception de la personne pour elle-même? Ça, je crois. Mais elle existe et fait appel à la conception de la substance subsistante, ainsi qu'à la nature. Elle est donc comme une synthèse, entre guillemets, de la métaphysique de l'être et des diverses parties de la philosophie. Philosophie de la nature, philosophie du vivant, éthique, philosophie, du Fatscherer. Tout est présent. Vous avez de fait toutes les parties de la philosophie qui sont là présentes pour essayer de définir ce que c'est que la personne. La personne ne peut pas se comprendre uniquement au niveau métaphysique de l'être. Elle demande à être explicitée au moyen des autres parties de la philosophie et donc au moyen de l'analyse des opérations vitales de cette nature rationnelle. Le théologien explicite davantage l'aspect métaphysique, mais le philosophe ne doit pas négliger l'autre aspect. Alors, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Et ça, là, je crois que c'est intéressant. On y reviendra au thème de l'étude sur la personne. Et comme on est dans saint Thomas, c'est quand même intéressant de voir comment, en saint Thomas, la petite synthèse théologique qu'il donne va impliquer le fait dans la personne. Quand il dit substance individuelle, donc ceci fait appel à la philosophie première. Quand il dit nature rationnelle, ceci fait appel à la philosophie de la nature. Comprenez bien. Substance, principe d'être. Nature, principe d'opération. C'est un des termes très précisément. Nature, ce n'est pas du tout principe d'être. Si vous confondez les deux, alors évidemment, vous avez tout de suite. Vous avez tout de suite l'esprit qui subsiste. Tandis que nature, c'est principe d'opération. Donc, philosophie de la nature, philosophie du vivant. Et je sais que le principe d'opération de fait, puisqu'on dit nature rationnelle, c'est l'intelligence et la volonté. Saint-Thomas va préciser encore que cette substance individuelle dans une nature rationnelle va impliquer un exister en soi. Ceci, c'est encore au niveau philosophique de la même. on le désigne et ensuite on l'élimine. Le propre de la personne, c'est impliquer un dominium sur ses actes. Un dominium, donc, responsabilité. Donc ici, philosophie éthique. Alors, philosophie du fait chéré. Cette main ne développe pas beaucoup. La philosophie du fait chéré dans la personne. Et homo sapiens, comment homo sapiens est une personne? Comment la capacité de dominer le dominium? Alors le dominium sur ses actes, sur la volonté, le dominium sur l'univers. Alors il y a un dominium aussi sur la situation. C'est pas explicite dans Saint Thomas, mais c'est impliqué. Alors Saint Thomas montrera que la personne est un tout. Un tout, c'est-à-dire que parmi les réalités créées, elle est un sommet. Elle est un tout. Elle est donc quelque chose de tout. Oui, je crois que là, vous avez... Oui.
Mais l'école de l'éthique, le substance, c'est fait de prendre dans la force de catégorie, la force des catégories, parce que côté individuel.
Oui, mais au fond, il y a aussi, le point de vue substance, ça dépend des cas.
C'est sujet,
substance. Oui, c'est substance, c'est sujet. C'est pas explicite, c'est tout à fait d'accord. Mais ça constamment dans un moment. Et quand cet homme prend substance individuelle, le point de vue métaphysique n'est pas exclu. La preuve, c'est qu'il existe en soi. Oui. Alors que si vous prenez catégorie, ce ne serait pas dit. Quoique c'est Pierre, hein, c'est lui aussi. Bon. Alors, je voudrais avec vous tout de suite évoquer, puisque comme vous voyez Occam souvent, vous avez vu Occam, voir un tout petit peu comment le grand tournant s'est fait avec Occam, au point de vue de la définition de la personne. Je crois ça important. Occam, vous le savez bien, c'est juste une frappée. Occam, vous le savez, c'est le lieu, n'est-ce pas, de culbute. La métaphysique est changée en logique. Et c'est en ce sens-là que Occam est tout proche de la philosophie contemporaine. Pour des quantités de choses. Alors ça, c'est intéressant, parce que quand on dit que la philosophie contemporaine est tout à fait moderne, disons qu'elle est encore comme grand-père des théologiens. Alors quand on lui dit qu'elle est grand-père des théologiens, c'est pas très drôle.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Thank you.